au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Mon invité cette semaine est l'une des premières personnes avec qui j'ai eu l'occasion de faire connaissance quand ma carrière m'a amené à me déplacer à Montréal et commencer, au-delà de la radio, à travailler dans le monde de la boxe comme descripteur de gala à la radio. Et un des premiers gars avec qui j'ai été jumelé dans une équipe de diffusion de télévision est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est devenu une sommité du monde de la boxe, un homme d'affaires, l'incarnation du fait que quand on suit ses passions et qu'on y va avec détermination puis qu'on a des compétences, eh bien, on va aller où on veut arriver. Mon invité est Ross Amber. Bonjour, Ross.
Allô, Mario, ça va bien?
Ça va très bien, je suis content de te recevoir parce que autant j'en connais sur toi que je suis convaincu que j'en connais pas le trois quarts. Et si c'est le cas pour moi, j'imagine pour les auditeurs et auditrices actuellement à l'écoute. Ross, premièrement, t'as l'accent qui nous révèle d'où tu viens, c'est clair. Un gars de Saint-Adèle, PQ.
Ben oui, Saint-Adèle en haut, à part de ça.
Oui,
à
monsieur.
Mon époque, quand je t'ai levé, oui. C'était Saint-Adèle en haut. Il y avait Saint-Adèle en bas aussi. Oh. Choquette, il restait Saint-Adèle en bas. Fait que,
Alain le magicien.
Ben oui, moi, j'étais à Saint-Adèle en haut.
Vous êtes-vous croisés, vous autres, dans votre jeunesse à Saint-Adèle?
Ben en fait, on a grandi ensemble. On a commencé à jouer au baseball à l'âge de 11 ans à Saint-Adèle. Et faut dire que Choquette, pour ceux qui le savent, il était... T'sais, une grande vedette au baseball, hockey, tennis,
il était un bon athlète.
Oui. Il était bon athlète, puis il était un des meilleurs lanceurs de notre groupe d'âge. Il était vraiment bon. Puis à l'âge de 15 ans, on a commencé à travailler ensemble dans une boutique de sport expert. Moi, j'étais technicien en ski, j'installais des fixations, j'aiguisais les skis, cirais les skis. Puis lui, il s'en occupait de département de tennis. Fait que on est devenus des chums à cause de ça. Puis tu sais, je suis fier de dire qu'on est encore chum aujourd'hui et chacun de nos carrières a débuté vraiment dans cette boutique de sport expert à Saint-Adèle.
Et les deux, vous avez obtenu du succès, chacun dans vos chemins différents et parallèles. C'est intéressant.
Hein? Mario, c'est ça qui vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour moi. Puis ça montre à quel point, quand tu as une passion pour faire de quoi et tu veux vraiment le réaliser, tu peux. À l'âge de 15 ans, c'était dans les années 76. C'était les années des Olympiques à Montréal. Le film de Rocky venait de sortir. Puis moi, j'ai eu le piqueur de la boxe. T'sais, c'est vraiment là que je...
Par le film Rocky ou par les Jeux Olympiques avec Sugar Ray Leonard qui était ici d'ailleurs?
Oui, Leonard, les Fries Spinks, tout le monde. C'est là que j'ai eu le piqueur. Puis le film Rocky aussi. Puis t'sais, la boxe était quelque chose que j'aimais. Puis là... J'avais l'âge de 15 ans, j'ai pris la décision que je l'aimais, tu sais, j'adorais ça. Et en même temps, Alain voulait devenir magicien. On était ses cobayes à l'ouvrage parce qu'il nous faisait des tours de magie. Puis, hey, regarde ça. Et moi, j'étais fasciné par ça. Et je demandais à Alain, hey, Alain, montre-moi un tour. Dis-moi comment ça se fait. Dis-moi. Et là, il, non, je peux pas te montrer. C'est une secret. Oh non, je veux apprendre. Fait que là, il m'a montré un tour. Il dit, OK, je vais te montrer un tour. Tu vas le pratiquer. Tu vas l'apprendre à le faire et tu vas me le refaire. Et si tu me le refais comme du monde, je te en prends un autre. Et je pratique de la magie jusqu'à aujourd'hui aussi. Fait que lui, il suit.
Tu fais encore de la magie aujourd'hui.
Ouais.
Fait que t'as pas mal de trucs que t'es capable de bien exécuter.
Et quand je m'en vais au camp d'entraînement avec les boxeurs et tout, Lomachenko adore mes tours de magie. Usyk, toute la gang, tu sais, il appelle là. Hey, viens ici, on est dans un resto. Là, je fais devant 25-30 personnes, je fais des tours de magie. Puis tout le monde rit. Puis on a du fun avec ça. C'est quelque chose que j'ai gardé de l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Puis chacun de nous, moi puis Choquette, on avait un rêve, là, tu sais, de poursuivre une carrière de quelque chose qu'on a adoré. Man, tu sais, 50 ans plus tard, je suis encore là, puis dans le métier que je veux faire et dans ma passion, et lui aussi, puis on est devenu... T'sais, le plus haut niveau que tu peux atteindre chacun
dans votre domaine.
Dans notre domaine.
Ben, bravo à tous les deux. C'est vraiment une belle anecdote. Je connaissais pas votre histoire, votre relation entre les deux. Je vais me promener dans les dernières décennies, bien sûr, pas de façon chronologique. Puis d'ailleurs, je vais aller dans quelque chose de tout récent. Tu viens de prononcer le nom de Lomachenko. Ross Amber, qui est notre invité en entrevue cette semaine. Qui est-il exactement et comment ça se fait que tu travailles avec lui?
Ben c'est une très bonne question. Non seulement qu'il est un des plus grands, mais les gens de boxe vont commencer à le connaître de plus en plus. Dans mes 40 ans de boxe, je peux dire que le seul gars que je peux dire qu'il passait proche d'être sur le niveau de talent de Lomachenko, c'est probablement Roy Jones. Style différent, mais un talent comme qu'on n'a jamais vu, c'était Roy Jones. Et Lomachenko, c'est un talent comme qu'on n'a jamais vu. Il a gagné médaille d'or à Pékin et à Londres. J'ai eu le privilège, si tu veux, de caler ses combats comme analyste pour Radio-Canada en anglais, pour les Jeux olympiques, pour les deux. Et on a tout dit que c'était le meilleur boxeur du tournoi et ils l'ont nommé meilleur boxeur du tournoi. Et il a décidé de tourner professionnel. Il a sa fiche amateur après ses deux médailles d'or olympiques. C'était 396 victoires et seulement une défaite. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde voulait voir ce petit phénomène. Puis tout
le
monde
dit gros, lui, dans quelle catégorie? On appelle les super featherweight.
Oui, là, il est super featherweight. Junior, 130 livres.
130 livres,
oui. En dedans de 11 combats professionnels, il a déjà gagné 2 titres mondiaux.
Et la connexion s'est faite pendant que tu étais analyste ou plus tard, à un moment donné,
ça s'est fait.
Tu travailler avec moi?
Encore une anecdote assez bizarre comment les choses arrivent dans vie. Il était ici à Montréal avec son gérant pour le premier combat de Jean Pascal contre Kovalev. Et son gérant, Aegis Klimas, qui est un ami à moi, il est aussi ami avec un autre gars ici à Montréal, Anthony Aquino, un ancien joueur de hockey. Et il disait à Anthony, il dit, Lomachenko, il a des problèmes avec ses mains. Fait qu'Anthony lui a dit, ben, tu devrais voir Russ, là. Tu sais, demande à Russ de faire ses mains puis voir s'il aime ça. Fait que le soir du combat, de bonne heure, on se rencontre au Centre Bell dans le vestiaire à Jean avant que Jean arrive. Lomachenko arrive dans le vestiaire. Je fais ses mains. Il a bien aimé ça. Il a checké nos gants. Il a bien aimé les gants. Fait que pour son prochain combat, j'étais engagé pour être cutman dans son coin, pour faire ses mains et pour fournir ses gants. J'ai fait ça pour lui. Tout de suite après le combat, on est retourné dans le vestiaire. J'ai dit, puis les mains, il a sorti sa main, puis il a dit, « Welcome to Team Lomachenko ». Puis il m'a serré la main. Puis pour moi, c'est un des plus grands honneurs que j'ai jamais eu dans ma vie, parce que, tu sais, c'est quand même, ça, c'est pas juste un boxeur ordinaire, là. C'est un super naturel, là. Tu sais, c'est un gars d'une autre planète. Il y a seulement 4 gars qui sont dans un coin de boxe, on est d'accord? Fait qu'il y a son père qui est son entraîneur, puis il y a son gérant. Donc, ça laisse 2 places. Moi, je m'en occupe une de ces 2 places-là. Tu sais, il y en a un grand monde de boxe.
Entre Sainte-Adèle puis l'Ukraine, disons que c'était pas évident que ça allait arriver, là. Tu communiques en anglais? Il parle anglais?
Oui, il parle anglais un peu. Moi, j'apprends un peu le russe aussi, fait que je parle un peu en russe, quelques mots, mais on s'est connectés. Imagine le nombre d'entraîneurs qui a croisé dans sa vie. Imagine le nombre de gens qu'il y a aux États-Unis qui voudraient avoir ma place. Puis c'est un gars de Montréal, puis je l'ai...
Et là, on parle de ton travail dans le coin, mais là, j'imagine qu'au plan business, là, tu sais qu'on a une chronique sport et business avec Will Alone, mais je veux dire...
j'ai vu Ray tantôt. Ouais.
D'avoir un des meilleurs boxeurs au monde et peut-être une légende en devenir, là, double médaillé d'or, qui porte des gants de ta compagnie, là, c'est ça, je veux dire, ça a pas de prix, ça, Ross? Non. Ross Amber, notre invité, ça a pas de prix, ça?
Ben non, ça a pas de prix, c'est sûr. Puis avec tout son résumé, il peut choisir n'importe quel gant, hein. Il peut demander à n'importe quelle compagnie de le faire. Il choisit nos gants. Puis c'est un genre de gars, comme je le connais, tu sais, il dit pas « oui, je vais le prendre juste pour te faire plaisir ». Il les prend parce qu'il les aime. Anthony Joshua, il est pareil. Anthony Joshua, qui est probablement une des plus grandes attractions dans le monde de la boxe, quand il s'est annoncé qu'il va boxer, il y a 80 000 billets qui sont vendus au Wembley ou quelque chose. T'sais, c'est une grande attraction. Lui, il peut choisir n'importe quel gant sur la planète, puis le monde, des plus gros compagnies seraient peut-être même prêts à lui payer pour porter ses gants. Et il a choisi mes gants, même avant de me connaître. Il a choisi mes gants parce qu'il les aimait, puis il les porte gratuit.
Tu parles de Wembley, des combats à grand déploiement. Là. Quel est le plus grand événement de boxe auquel tu es assisté comme spectateur ou pour travailler dans un coin dans toute ta vie, Ross?
Ben écoute, tu sais, il y a beaucoup de faits saillantes dans le carrière. Puis je pense Durant puis Leonard au Stade Olympique, c'était pas mal important. Là. C'était assez gros d'avoir assisté à ça. C'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Le plus gros avant ça, c'était de voir Marcotte puis Melo. Mais là, t'es Leonard Durand.
Là, c'est international.
Ben oui, ça, c'est comme spectateur.
C'est quoi ton souvenir de cette soirée-là? Quoi de marquant?
Ben, que c'était tout un combat, là, tu sais, que Leonard, je pense qu'on était tous eu la même impression que Leonard, il a resté là puis il a essayé de prouver qu'il était pas un pretty boy, là, tu sais, qu'il était là pour se battre avec Duran, là, puis Krem, il a bien fait contre un tueur. Le monde, il réalise pas à quel point Leonard, ça a eu de courage pour rester là devant Duran, parce que Duran, tout le monde pensait que si Leonard restait là, il était pour se faire battre, puis il a resté là puis il a perdu une décision partagée, là.
T'sais, as-tu vu le film sur leur affrontement, oui, à Montréal avec la vedette de la chanson Usher qui joue, oui, le rôle de Sugar Ray Leonard?
Oui.
As-tu aimé ça?
Oui. C'était pas pire. Moi, j'ai plutôt aimé le documentaire qui était fait quand Leonard est allé rencontrer Duran maintenant, 30 ans plus tard, là, puis ils se sont allés rencontrer, puis il a parlé de qu'est-ce qui s'est passé lors du premier combat, comment que Duran lui avait manqué de respect, comment qu'il a parlé à sa femme, puis toutes ces choses-là.
Oui, 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 oui.
C'était quelque
bon.
Chose de intéressant. Mais ça, c'est côté spectateur pour moi, Leonard Duran.
Ross, on va faire une courte pause. Ross Amber, entraîneur de boxe, cutman, on trouve pas exactement la définition, l'homme qui finalement soigne les coupures dans les coins des boxeurs.
Tu parles en français?
C'est soigneur, ouais, c'est
ça. Cutman.
Cutman, ouais, c'est ça. Bon, Ross, tu viens nous régler ça. On revient pour la suite de cet entretien, parler des boxeurs québécois que tu as eu l'occasion de côtoyer, d'entraîner. Il y en a, là, des Gatti, des Hilton, je sais pas que tu les as tous entraînés, mais tu les as connus. David Lemieux et compagnie, on revient tout de suite après la pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous voilà de retour. Une incursion dans le monde de la boxe aujourd'hui en entrevue avec mon invité Ross Amber, entraîneur, analyste. As-tu déjà, tu me parlais de Lomachenko, un gars que les gens d'ici connaissent moins, mais dans les boxeurs d'ici que tu as connus, est-ce que t'as déjà eu la réaction de dire « Wow, j'ai tout un prospect entre les mains, il y a quelque chose à faire ». Est-ce qu'il y a des boxeurs qui t'ont laissé cette impression-là, cette première impression quand tu les as vus?
Le premier gars à qui j'ai fait « Wow » à mes débuts comme entraîneur de boxe, c'était Vinnie Curto. Quand j'ai croisé Vinnie Curto à l'ancien club de boxe olympique, c'est là que j'ai vu la différence de le niveau de qu'est-ce qu'on était habitué de voir local et quand quelqu'un, un vrai de international, il était parmi nous, tu sais, et tu le voyais là.
Ça, c'est pas un Québécois, c'est un Américain, ça.
C'est un Américain, oui, mais il entraînait ici à Montréal au club de boxe olympique.
Okay.
Il a même affronté Eddie Mello au Forum en novembre 78. Puis il m'a invité pour être dans son camp d'entraînement pour préparer pour le combat de Eddie Mello. Et tout de suite après le combat, quand la décision est annoncée, tout le monde vient pour prendre Vinnie dans les airs, puis lui, il se plie vers le bas pour me embrasser. Tu sais, ça, c'était quelque chose qui m'a fait preuve que si cet homme-là pense que je suis une bonne entraîneur de boxe, j'ai sûrement de quoi, puis ça m'a donné le courage que j'avais besoin, puis la confiance que j'avais besoin pour poursuivre ma carrière.
On peut-tu dire que t'es celui qui a découvert David Lemieux, Ross Amber?
Ben, découvert. La boxe, des fois, c'est un hasard. David est rentré dans mon gymnase, puis j'ai vu tout de suite que ça aurait pu être quelqu'un de bon. Et il entraînait très fort. Quand il était jeune, la chose qui m'a impressionné de lui, c'est qu'il a jamais lâché, puis il a toujours entraîné fort dans le gymnase. Je pense que quelques années après avoir rentré chez nous, il y avait déjà le clé de gymnase, fait que c'est lui qui ouvrait le gymnase, puis c'est lui qui fermait le gymnase, tellement que j'avais confiance en lui. Et une chose que les gens ne savent pas aussi, c'est que Lemieux, il a perdu ses 4 premiers combats amateurs. Et tu sais, il y aura eu beaucoup de boxeurs qui auraient lâché la boxe après avoir perdu 4 combats en ligne. Mais il n'a jamais lâché, et par la suite, il est devenu un boxeur de champion provincial, champion national, et tu sais, il a continué à évoluer et devenir un des meilleurs boxeurs qu'on a produit ici. Puis je pense qu'on a vu les résultats. C'était triste comment que ça finit entre moi et lui. Mais au moins maintenant, il fait qu'est-ce que moi je voulais qu'il fasse. Puis il voulait pas le faire. Puis c'est dommage parce que quand il était jeune, c'est-à-dire de prendre ça au sérieux, tu sais, de pas penser que tu vas knocker tout le monde, de travailler ton métier. Quand il a fait ses débuts professionnels, il était encore quelqu'un qui s'entraînait très très fort, puis toujours dans le gym, puis pas de problème avec lui. Je dirais après les 2 premières années. À la fin de la 2e année, c'est là qu'il a pensé que Crème, la boxe professionnelle, c'est donc bien facile, ça. T'sais, j'ai juste à frapper des gars sur la mâchoire, puis ils se lèvent pas, puis je gagne par knock-out tout le temps, tu sais. Puis il était jeune.
Il a commencé sa carrière jeune chez les professionnels.
Oui, il a commencé à l'âge de 18 ans.
Et les influences?
Je pense qu'il y a sûrement eu des influences de les gens qui disent comment il est grand, comment il est great, comment il est bon. J'avais pensé que le mieux, il était plus solide, parce que tu sais, il est avec moi depuis 9-10 ans, il était avec moi, puis tu sais, je l'avais toujours éduqué, tu sais, faut faire attention à ces gens-là qui disent ça, c'est pas important, faut regarder l'avenir, c'est pas important que tu sois bon maintenant, c'est important que tu sois bon dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais, je lui disais toujours ça, et même je me souviens, puis je suis certain que vous pouvez trouver les conférences de presse quand on a annoncé sa carrière professionnelle, j'ai dit, moi je veux que le mieux qui affronte rien avant qu'il soit au moins rendu à 40 combats professionnels. T'sais, je veux qu'il ait au moins 40 combats avant qu'on affronte les grands noms et je veux qu'il apprenne son métier comme du monde. Et je pense que j'avais un peu raison parce que dans ces 35, 36, 37e combat professionnel, c'est là qu'il est devenu champion du monde. C'est là qu'il est battu contre Golovkin. C'est là qu'il a commencé à affronter. Donc, ma prédiction, quand il avait 18 ans, j'avais raison. C'est juste dommage que, tu sais, il a arrêté de suivre mes conseils après son deuxième année professionnelle. Et je pense pour le bien-être de nous deux, c'était mieux que je lui dise, OK, va-t'en, trouve-toi quelqu'un d'autre qui pourrait t'en occuper de toi. Moi, je peux plus parce que je peux plus me perdre d'énergie à essayer de te forcer de faire du travail. Et peut-être c'était le wake-up call qu'il avait besoin parce que quand je lui ai laissé et j'ai dit, arrange-toi, c'est là qu'il a changé un peu son plan. Puis, tu sais, il se présentait à tous les jours dans le gymnase puis il s'entraînait fort. Puis, il fait maintenant qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse pour la dernière année qu'il était avec moi qu'il n'a pas fait. Fait que au moins, c'était wake-up call. Il le fait maintenant. Puis, il a eu les résultats. Il a fait beaucoup d'argent. Il a gagné le championnat du monde. Il a boxé encore pour un autre titre mondial. Il n'a pas gagné, mais il a boxé pour. Puis, au moins, il s'entraîne fort. Puis, c'est ça l'important.
Est-ce que il y a encore un lien entre vous deux ou la façon dont ça s'est terminé a fait en sorte que finalement, puis est-ce que ça te fait encore un petit pincement au cœur quand tu le vois boxer sur des grandes scènes internationales?
Ça, pas que ça me fait un pincement de cœur de le voir sur la scène internationale, un pincement de cœur que tu sais qu'il y avait pas. Il sait, dans sa tête, il sait. Je le sais qu'il sait parce qu'il est pas stupide. Puis il est avec moi depuis qu'il est toujours. Il sait que j'avais raison. Et il a fait par exprès de pas le faire. Donc, il a décidé je sais pas s'il y avait du monde qui l'ont influencé ou il a pris la décision de pas entraîner fort, de pas faire attention à son poids, de pas respecter le sport en tant qu'athlète dans un sport dangereux. Il sait qu'il l'a pas fait. Et le résultat, je pense que c'est la preuve, il était dans le combat de Rubio, puis par la suite, Alcine, tout de suite après, parce que les séquelles étaient encore là. Et tu sais, il y avait...
Deux défaites consécutives, question de mettre ça en perspective pour les gens qui n'ont pas suivi à la lettre sa carrière, dont un où tu lances la serviette, finalement, en plein combat, alors que c'était en train de tourner là vraiment l'avantage marqué de Rubio, alors que David avait tenté de le knocker dans les premiers rounds. Là, hein?
Il a débordé pendant 5 rounds, il a tabassé d'un poteau de ring à l'autre. Là, il a prouvé, moi je pense, il a prouvé qu'à quel point il était capable de mesurer avec les meilleurs boxeurs au monde. Mais il a aussi fait preuve qu'il avait pas le jeu pour le faire parce qu'il n'a pas entraîné fort pour le combat. À 30 jours du combat, il était 22 livres overweight déjà, tu sais. Fait que ça, c'est la jeunesse, tu sais. Il a pas voulu m'écouter. Il pensait que moi, j'étais un vieux qui juste le plaignait puis, tu sais, mais.
Les jeunes ont besoin d'entendre une autre voix. Des fois, c'est la voix qui le ramène toujours, qui cogne sur le message. Ouais. Une voix patriarcale, peut-être, un peu,
peut-être.
Veux pas?
Peut-être.
Hein?
Peut-être.
Parce que toi, tu l'as connu avec quel âge?
9-10 ans.
Ah, ouais, 9-10 ans?
Ouais.
Tu viens-tu d'une image de David Lemieux,
ben
9-10 ans?
Raconte-moi. Il était tout jeune. Puis je vais te dire de quoi? C'était un gars, comme je vous dis, à sa jeunesse, puis jusqu'à son deuxième année de carrière professionnelle, c'est un des boxeurs que j'avais qui entraînait le plus fort. Il n'y avait rien que tu pouvais pas demander à Lemieux de faire dans une gymnase, puis il faisait. Mm-hmm. Mais après ça, ça s'est arrêté. Mais il était de loin un boxeur naturel. Il a vraiment, vraiment travaillé fort pour atteindre les niveaux qu'il a atteints. Et on faisait même des jokes.
Il fumait pas une cigarette, jeune, lui?
Ah oui, il fumait une cigarette, il volait des bicyclettes. Puis je dis, Dave, où t'as pris cette bicyclette-là? mais je l'ai trouvé. J'ai dit, mais tu trouves pas une bicyclette, comment tu l'as trouvé? Ah, mais il était dehors, il y avait pas de carnet dessus. Mais ça veut pas, parce qu'il y avait pas de carnet dessus, ça veut pas dire que tu peux prendre le bicycle. Mais tu sais, des choses de même, il faisait. Une fois, il est arrivé au gymnase, il y avait une hache dans ses mains. Il y a 10 ans, il rentre dans le gym avec une hache. Mais qu'est-ce que tu fais là avec une hache? Tu te promènes dans la rue avec une hache? Tu sais, des choses de même que le mieux faisait. Mais quand il rentrait dans le gym, là, il voulait travailler aussi fort que les hommes qui étaient là. Puis il travaillait fort. Puis il travaillait fort parce qu'il n'était pas un naturel. Il a vraiment travaillé fort pour atteindre les niveaux qu'il a atteints. Et on faisait des jokes que si on dit quelque chose à le mieux au mois de janvier, on espère que par le mois de juin, il y a une idée de quoi qu'on parle. Là, t'sais? Tellement qu'il fallait qu'il travaille fort pour apprendre qu'est-ce qu'on lui enseignait. Puis je pense que le boxeur que vous voyez devant vous aujourd'hui, c'est un gars qui a travaillé vraiment fort pour être là. C'était pas facile. Par contre, ça a aidé sa force de frappe pour passer à travers plusieurs choses. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Ça, tu peux pas enseigner ça. Il y a une bonne force de frappe, mais tout le reste, il a travaillé fort pour apprendre ça.
Peut-être juste une opinion sur son dernier combat contre Sanders. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un Sanders qui était très mobile, David, plus, il y en a qui ont dit unidimensionnel. Et du même souffle, le vois-tu remporter un titre mondial encore là, après toutes ces expériences et des défaites contre Golovkin et Sanders?
Mario, on a passé beaucoup de temps ensemble, moi puis toi. Tu connais mon philosophie de la boxe. Puis une des choses les plus importantes d'un gérant, d'un matchmaker, c'est de choisir les bons combats pour ton poulain. Et sur papier, et moi, j'ai vécu ça avec Otis Grant, parce que Otis Grant était un gaucher qui était capable de cogner puis qui savait boxer. Donc, tu peux t'imaginer comment c'était difficile pour nous, quand moi, je gérais la carrière d'Otis, de trouver des adversaires, parce que tout le monde refusait de boxer contre Otis parce qu'il était dangereux. Marvin Hagler, il était de la même problème. Difficile d'avoir des adversaires parce qu'il était dangereux, il était gaucher. C'est une recette. Dans le page 1 du livre « How to be a manager », tu sais, comment gérer un boxeur, la première chose que tu marques, t'affrontes pas des cogneurs, t'affrontes pas des gauchers. Tu sais, c'est quasiment 1-2 dans le livre de règles de gérant. Et le style de Lemieux, et c'est facile, c'est sûr que c'est facile maintenant de le dire maintenant, mais le style de Lemieux ne correspondait pas avec le style de Sanders. Quelqu'un comme Sanders, un gaucher qui bouge comme ça, va toujours causer des problèmes à Lemieux. Je pense que Sanders, de le même style, mais en étant droitier, augmente les chances de Lemieux par 30, 40, 50 % si Sanders était droitier.
Est-ce une erreur d'avoir accepté le combat?
Ben, une erreur. Des fois, c'est pas une question d'une erreur. Des fois, c'est une question de business. Ça, c'est le combat qui est là, puis t'es obligé de le prendre. Mais c'est sûr que tu me parles de si j'avais vu le combat, c'est sûr que c'est un style qui va toujours déranger quelqu'un comme Lemieux. Et pareil comme il va y avoir des styles qui vont déranger Sanders, mais le style de Lemieux n'en était pas une. Ça, c'est le style que lui, ça lui fait performer encore mieux.
Ross Amber, notre invité, entraîneur de boxe, homme d'affaires dans le monde de la boxe, qui vend des gants de boxe et des articles connexes à tout ce qui se passe dans l'industrie de la boxe. Nous revenons pour la suite de cet entretien avec notre invité dans un instant.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous recevons Ross Amber en entrevue aujourd'hui, une incursion fascinante dans le monde de la boxe. Tu les as tous connus, Ross. Tu sais, je te nomme Arturo Gatti. L'as-tu croisé? L'as-tu connu?
Non seulement que je l'ai croisé, mais lui, il a commencé sa carrière de boxe au même moment que moi, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Fait que moi, je suis rentré dans le gymnase de club de boxe olympique qui était en haut du Théâtre Rialto sur Avenue du Parc et Bernard. Ça, c'était un gymnase de boxe légendaire parmi nous. Donato Paduano venait de là. Jean-Claude Leclerc s'entraînait là. Nomme qui tu veux dans le monde de la boxe montréalais, il s'entraînait au club de boxe olympique. Marlon Wright, le feu Marlon Wright, quand il boxait, il était chez au club de boxe olympique. Gatti était au club de boxe olympique. Michel Moffat, qui était entraîneur au club de boxe olympique. On venait tous, nous autres, on venait tous.
Est-ce que les Hilton étaient là aussi, eux autres?
Les Hilton, ils étaient au club de boxe olympique. Fait que tout le monde était là.
Ça devait brasser là certaines journées, hein?
Ça, c'était le Kronk de Montréal. De Canada, peut-être. T'sais, c'était le gymnase à l'époque. Et, je veux devenir entraîneur de boxe. Je rentre dans le gymnase et je vois un petit jeune. Il y a 7-8 ans, puis on dirait qu'il est comme un professionnel. Les coups, les moves, comment qu'il bouge, les crochets. Et c'était Arturo Gatti.
7-8 ans, il était dans le gym de boxe.
Ouais. Et il était même pas droit d'avoir fait son premier combat avant l'âge de 11 ans. Donc, il était dans le gymnase avec son frère qui était là. Puis Dave Hilton, à l'époque, sortait avec sa sœur.
Anna Maria?
Donc, le style de Dave Hilton, il était... dans Gatti, là, tu sais, fait que quand il était jeune, comment qu'il boxait, c'était vraiment quelque chose de incroyable. Et j'ai eu l'opportunité pendant des années de côtoyer Arturo quand il faisait partie de l'équipe du Québec puis l'équipe nationale au Canada. Puis c'est même moi qui avait le surnommé The Professor, parce qu'on disait quand on allait au championnat canadien, on disait, Arturo, on va lui donner une leçon à ce gars-là. The Professor, puis on l'appelait professeur, puis il donnait des leçons à des gars du reste du Canada. Il était quelqu'un de vraiment spectaculaire, même quand il était jeune. Mais même quand il était jeune, on dirait qu'il boxait plus, là. T'sais, il était plus dans le style de Davey Hilton. C'est quand il a tourné professionnel puis il est allé aux States que là, il est devenu plus le bagarreur. Mais c'était un boxeur très talentueux.
Quel est le meilleur boxeur que t'as vu ici au Québec, là, un gars là, qui a poussé chez nous? Là, y en a-tu un que tu peux classer et dire, lui, il y avait une coche de plus sur tout le monde?
Dave Hilton.
Oui?
Bon, si je suis même prêt à dire livre pour livre, au Canada, je pense qu'il était le meilleur qu'on a jamais produit au Canada, livre pour livre. C'est dommage que ses résultats n'ont pas atteint le niveau de son talent. Parce que ce gars-là aurait dû être champion du monde 10 ans avant qu'il est devenu champion du monde. Il aurait dû l'avoir défendre un titre une dizaine de fois. Je vais te conter une histoire que Angelo Dundee a dit.
Qui est Angelo Dundee pour nos auditeurs, Ross?
Angelo Dundee, le grand Angelo Dundee, c'était l'entraîneur de Muhammad Ali puis Sugar Ray Leonard, entre autres Willie Pastrano et d'autres, mais un homme légendaire, un de mes idoles de homme de coin, de cutman, c'est lui, et un ami à moi, et quelqu'un qui aimait que je fais des tours de magie pour lui, et il m'a dit, Russ, Muhammad would have loved this. Il me disait que Muhammad Ali aurait vraiment aimé mes tours de magie. Fait que c'était touchant qu'il me dise ça. J'ai soupé avec lui, je le visitais quand j'étais en Floride. À une époque des années 80, milieu des années 80, les revues de boxe, World Boxing, International Boxing, Boxing Illustrated, ils faisaient des sondages que qui était le meilleur mi-moyenne au monde. Fait qu'ils demandaient à toutes sortes d'entraîneurs et journalistes américains. Et à l'époque, t'avais des gars comme Donald Curry, Marlon Starling, Colin Jones, Lloyd Hunnigan, il y en avait beaucoup. Et chacun donnait son opinion qui était le meilleur. Quand ils sont passés à l'entrevue avec Angelo Dundee, il a dit, c'est qui le meilleur mi-moyen au monde, Angie? Angelo, the best welterweight in the world is Davey Hilton Jr. Là, tout le monde dit, qui? Quoi? De quoi tu parles? Oh, c'est qui ce gars-là? Il dit, attends, tu vas voir. Puis, il avait raison. Puis, il était le meilleur. Il était un Sugar Ray Leonard avec force de frappe, vitesse, talentueux, killer, instinct tueur. C'était pour moi, je pense, le boxeur le plus complet qu'on a jamais produit ici au Canada, mais... C'est dommage qu'il n'y a pas eu le... Il est devenu champion du monde quand même, que c'est pas un...
Quand même incroyable, des années plus tard, là. Contre Degan Tobella, je décrivais le combat.
15 ans après avoir tourné professionnel. Combien de boxeurs qu'il y a sur la planète qui ont gagné un titre mondial 15 ans après avoir tourné professionnel? Ça te montre à quel point qu'il était talentueux, cet homme-là. Dans une catégorie, il a tourné professionnel comme à 147 livres, puis il gagne un titre mondial à 168 livres, et il pèse à peu près 160 livres pour gagner ce combat-là. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est pour moi. Puis, je pense que c'est le plus grand que moi j'ai vu.
Tu parles, on vient de parler de Davey Hilton, la famille Hilton, Arturo Gatti, fin tragique dans le cas d'Arturo. Davy, évidemment, le nom Hilton rime avec boxe, mais rime avec beaucoup d'activités, beaucoup de turbulences également dans leur vie privée. As-tu vu beaucoup d'histoires qui t'ont attristé dans le monde de la boxe? Des tragédies qu'on ne voyait pas, mais que tu savais que se passait en coulisses, puis... Il y en a-tu encore beaucoup, mais surtout par rapport à ces époques-là, là, cette époque-là?
Bah, je sais pas. Tu sais, c'est. Je pense Eddie Mello, c'est peut-être un des plus tragiques aussi. Eddie Mello, le vedette qui était, avec le talent qu'il avait, on s'est pas occupé de lui. On a vraiment pas pris le temps de développer ce jeune-là. Si à l'époque, on aurait pris soin de lui, comme qu'on a pris soin de Lemieux quand lui a tourné professionnel, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Les deux, ils ont tourné, même Lemieux, Mello, il a tourné professionnel même avant Lemieux, puis Lemieux, c'était à 18 ans. Mello, c'était à 17 ans qu'il a tourné professionnel à Verdun. Si on avait s'occupé de lui, l'entouré d'une bonne équipe, pas juste ceux qui voulaient juste faire de l'argent avec lui vite, tu sais, et puis ils voyaient plus gros qu'il était. Je pense que ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu faire une grande carrière puis peut-être devenir un champion du monde parce qu'il était vraiment doué d'un talent exceptionnel. Défensivement, il était pas bon, mais tu sais, il faut dire qu'on le mettait comme un jeune devant des lions, puis tu sais, il restait coup pour coup avec eux. Puis les gens peuvent checker sur BoxRec ou les fiches des boxeurs. Il a tourné professionnel à l'âge de 17 ans. Il fait 7 combats professionnels dans 8 mois ou 9 mois, puis on le met contre Fernand Marcotte. Nomme-moi un boxeur là qu'on tournerait professionnel à l'âge de 17 ans, puis qu'on le mettrait contre, mettons, l'équivalent à l'époque, ce serait de mettre quelqu'un après 7 combats professionnels, puis 9 mois de combats professionnels d'expérience, puis on mettrait comme, mettons, contre Lemieux.
Y en a... Ça n'a pas d'allure.
Mais non. Puis on l'a mis contre Marcotte, là. Puis il a gagné le premier combat en plus. Fait que je pense que ça, c'est quelqu'un, une des histoires pour moi un peu tristes. Puis après ça, tu sais, toujours affronter des gros combats, être impliqué dans des gros combats, puis pas jamais avoir la chance de se développer comme il faut, là. Tu sais, de vraiment améliorer son art. Je pense que ça lui a fait de mal. Puis après ça, tu sais, les gars, ils commencent à le taper. Puis éventuellement, il était plus capable. Puis lui, ça finit par une fin tragique pour lui aussi. Mais c'est vraiment dommage. Un autre qui, c'est pas triste, mais c'est exceptionnel, que j'ai toujours adoré voir boxer, c'était Nicky Furlano. J'ai trouvé Nicky Furlano extraordinaire. Le premier gars à se rendre à 15 rondes avec Aaron Pryor. Puis ses combats contre Gaethje Hart. Pour moi, c'est dommage que les gens n'aient pas accès à ces films-là parce qu'ils ne savent pas comment c'était des combats tellement émouvants puis excitants. Puis pour une titre canadienne, comment le titre canadien était important à l'époque. Ouais. Gaethje Hart puis Nicky Furlano, c'était deux gars que j'adore toujours. Puis je suis fier d'être leurs amis.
Ross Amber, notre invité aujourd'hui. J'espère que l'entretien vous plaît. Et on revient pour la conclusion dans un instant. Une fascinante incursion dans le monde de la boxe aujourd'hui.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
Nous voilà de retour pour la conclusion de notre entrevue aujourd'hui avec Ross Amber. Ross, tu as travaillé avec tellement de boxeurs, des boxeurs d'ici et d'ailleurs. Il me semble que tu travailles de plus en plus souvent d'ailleurs avec des boxeurs à l'international. Mais on t'a vu souvent dans le coin de Jean-Pascal. Je te demande un commentaire ou une pensée sur les boxeurs à qui tu as travaillé. Jean-Pascal, qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont il a géré sa carrière puis de la manière dont il l'a fini?
En fait, je suis content que tu me demandes ça, Mario, parce qu'en fait, je viens de parler à Jean quelques jours. Puis je lui ai dit et je lui ai remercié pour le temps que j'ai passé avec lui. J'ai passé dès son premier combat professionnel avec lui, son dernière année amateur et son premier combat professionnel jusqu'au temps qu'il a décidé de changer de camp et de laisser le camp de Mack Ramsey. Et je lui ai remercié pour le temps que j'ai passé avec lui. Puis même des fois, quand on s'est cogné de tête ensemble puis qu'on s'est chicané, j'ai toujours, toujours adoré travailler avec Jean. Et c'était un gars que j'ai eu énormément de plaisir et énormément de respect pour lui, parce que malgré toutes ses conneries à l'extérieur du ring puis de ses propos des fois, quand que la cloche sonnait, il était là pour se battre. Puis il a jamais reculé devant personne. Et je lui ai dit que c'est une regrette. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais une regrette, c'est de pas avoir fini sa carrière avec lui. J'aurais aimé être là dès le début à la fin. Puis j'ai beaucoup de respect pour Jean. Puis je lui remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'en fait, il était un des les premiers. Il était le premier gars à porter mon équipement sur HBO. Il était un des gars qui m'a engagé comme cutman, tu sais, dans une position haut de profil, si tu veux. J'étais impliqué beaucoup dans les camps avec Marc. Tu sais, c'était pas, comme je te dis tantôt, pas juste cutman, tu sais, j'avais un plus gros rôle avec ça, puis je me sentais important dans ce camp-là, puis j'ai vraiment adoré chaque minute que j'avais avec... même quand il nous rendait fous, puis je voulais le tuer. Puis ça, il y en avait beaucoup de soirées de même. Mais à la fin de tout, je suis fier d'avoir travaillé avec lui. Puis
Crois-tu à sa retraite?
L'histoire de la boxe, t'sais, c'est rare que les boxeurs respectent leurs paroles. Fait que le over-under dans le gageur, c'est que t'sais, il pourrait revenir. Parce que quand tu regardes tous les boxeurs, tu peux quasiment nommer sur une main le nombre de boxeurs qui ont décidé de prendre leur retraite. Puis finalement, ils ont pris leur retraite.
Ta dernière conversation t'indiquait-elle que... est-ce que la dernière conversation que tu as eue avec lui t'indique que c'était peut-être pas fini?
Ben oui, je pense que la porte est peut-être fermée, mais la serrure, il est pas mis dessus, selon moi. Et ça prendra... ça sera pas une clé d'argent qui va ouvrir le serrure. Il faut que ça soit un clé d'or, puis il faut que ça soit vraiment quelque chose de spectaculaire pour le ramener dans une ring de boxe. Je pense pour des petits combats, il est plus intéressé. Il a fini cette étape-là, champion du monde, tout. Mais
y a-t-il quelque chose à gagner, à livrer un autre grand combat, puis pourrait-il le gagner? Parce que contre Kovalev, ça n'a pas été facile, là, quand on parle de l'élite mondiale. Là.
C'est ça, et ça n'a pas été facile, mais je pense que ça va être quelque chose. S'il revient, pour moi, ça va être à cause de quelque chose qui va lui rapporter soit, premièrement, beaucoup d'argent et un spectacle extraordinaire, t'sais, quelque chose qui va remplir le Centre Bell.
Est-ce qu'il y a une chance de battre Adonis Stevenson si Adonis voulait bien se battre contre Jean-Pascal?
Mais, ça sera une question d'argent. Ça sera une question d'argent, j'imagine.
Mais si ça se produisait sur un ring, est-ce que Jean est encore de ce niveau-là?
Ça, Mario, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Puis je te l'ai toujours. J'essaie de répondre le plus honnêtement possible quand je te parle.
Oui, tout
puis
temps.
Tu le sais, quand je dis quelque chose comme ça, pour moi, pour répondre à cette question-là, si j'étais encore impliqué dans le camp de Jean, puis je suis dans le gymnase à tous les jours, et je le vois comment il travaille, je vois comment le sparring qu'il fait, je vois comment il performe contre des partenaires d'entraînement, je pourrais répondre avec plus
d'assurance
ouais. que je peux maintenant. Mais comme j'ai parlé à lui, tu sais, l'âge avance sur tout le monde, et il a fait des guerres ensemble. Il a fait des guerres, lui, avec beaucoup de boxeurs. Tu sais, à un moment donné, là, même quand tu veux, le corps, des fois, il répond pas quand tu veux. Comme tu veux, puis il y a plus 25 ans, là, tu sais, puis le corps, il récupère vite à 25 ans. À 35, il récupère moins vite, puis surtout après avoir été endommagé, puis des coups, des gars qui a fait. Il pense à son combat contre Carl Froch, qui était avant qu'il est devenu champion du monde. C'était une guerre, combat de l'année en Grande-Bretagne. Tu sais, c'était une guerre, là, man. Fait que Jean, il a mis beaucoup de millage sur son Ferrari, si tu veux.
C'est le cas de le dire. Ouais. J'évoque le nom d'Adonis Stevenson. C'est un champion du monde, mais qu'on voit pas se battre souvent. C'est difficile donc de l'évaluer par rapport à l'élite mondiale de sa catégorie. Tu le places où, Adonis, puis qu'est-ce que tu penses de sa carrière, puis du peu de combats qu'il livre là, ces dernières années?
Écoute, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, à qui m'ont demandé, c'est qui Adonis Stevenson? J'ai dit, si tu sais pas c'est qui, je vais te le dire. Moi, j'ai 40 ans dans la boxe. Pour moi, coup pour coup, le plus dangereux cogneur que j'ai jamais vu, livre pour livre, là. T'sais, je lui mettrais dans le même trempe que George Foreman, point de vue force de frappe. Un simple coup. Et moi, je l'ai vu, je l'ai entraîné pendant 2 ans quand il était amateur. Quand il est venu chez nous, il était même pas champion provincial, puis il est devenu numéro 1 en Amérique du Nord en dans de 2 ans quand il était avec moi. Et moi, j'ai vu des combats qu'il a fait, puis des sparring où des fois, il frappait quelqu'un, puis même des fois, même pas un coup clean, là, tu sais, un demi-coup, si tu veux. Et tout d'un coup, il y avait un délai, comme si le cerveau se reprogrammait pour voir c'était quoi ça qui me vient de me frapper. Il fallait que elle se reprogramme pour réaliser la force de frappe avec quoi qui vient de le toucher. Puis les boxeurs, ils allaient à terre après un délai de une seconde avant que le cerveau réalise qu'il y avait une tonne de plomb qui a tombé sur leur tête. Là, fait que il était pour moi un des plus grands cogneurs que j'ai jamais vu. Et écoute, il est devenu champion du monde, il a fait de l'argent, il est content avec ça, mais je pense qu'avec le talent qu'il a, puis le force de frappe qu'il a, il aurait pu faire 10 fois plus et défendre son titre, puis être un comment tu dis ça, household name là, tu sais, oui. dans la division des Milo.
Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes la boxe québécoise en ce moment? Les gros gars-là, évidemment, ça implique toujours de l'international maintenant. Tu parlais du championnat canadien qui, à l'époque, était quand même quelque chose de très relevé. Ouais. Ça pouvait remplir un amphithéâtre pour un championnat canadien. Mais qu'est-ce que tu penses de la boxe québécoise, des boxeurs québécois en ce moment, en 2018?
Ben 2018, ça commence à être off là, un peu. Là. On n'a pas les gars-là comme qu'on est habitué d'en avoir. T'sais, pendant un bon bout de temps, durant les années de Lucien Bouté puis Jim qui roulait en même temps au casino, quand même, on dirait qu'à chaque fin de semaine, à chaque mois, il y avait de la boxe, 2 cartes par mois. T'sais, les gars, il y avait de l'action. Je pense que ça a pris un peu un ralenti maintenant. C'est pas comme c'était. Ce n'est pas à son meilleur santé dans le moment. Puis c'est dommage. Et je pense que la chose où peut-être ça nous fait mal aussi, c'est que à l'époque, quand je parlais de Gaëtan Hart puis Nicky Furlano puis Eddie Mello et compagnie, Halifax et Toronto, eux aussi, il y avait beaucoup de boxe professionnelle. Et tu pouvais organiser une carte de boxe à Montréal, puis tu pouvais venir des gars d'Halifax puis des gars de Toronto, tu remplis une carte, puis bang, combat est fait, puis il y a 5000 personnes au Centre Paul Sauvé. À Star, c'est de plus en plus difficile. Il y a moins de professionnels, tu sais, dans le Canada qui veulent venir ici à Montréal parce qu'on est tellement plus avancé que eux qui veulent plus venir ici. Avant, on était quasiment égal. Là. Tout le monde était pas mal égal. Mais Montréal, avec les résultats en commençant avec Matthew Hilton, après ça, Otis Grant, Eric Luca, Wallet, Montréal a pris une d'avance par beaucoup sur les autres provinces que tellement que nos boxeurs se sont venus tellement trop forts que le gars de Calgary, puis Edmonton, puis Toronto, puis Halifax, il veut plus venir ici de boxer contre eux autres parce qu'il vient ici comme une victime. Donc, on a perdu cet aspect local, cette rivalité nationale qu'on avait avec les autres villes. On a perdu ça. Puis, on a perdu aussi les rivalités québécoises. Ça, c'est pour moi qui était une des choses le plus tristes à l'époque dans le petit, mettons, guerre froide, si tu veux, avec Interbox puis groupe Yvon Michel, le fait que certains boxeurs de groupe Jim n'ont pas affronté des gars de Interbox était triste pour les amateurs. Le fait que Jean-Pascal et Lucien Bouté se sont affrontés après avoir été champions du monde, pour moi, est incompréhensible. Tu sais, j'ai jamais compris ça. Pour moi, le combat aurait dû se faire après le deuxième combat de Jean-Pascal contre Diaconu. Bouté, qui était encore champion du monde à 168 livres, aurait dû relever le défi puis dire, je vais venger mon ami Diaconu puis je vais faire un combat. Puis ça aurait fait un combat de championnat du monde avec 2 Québécois, 2 champions du monde en même temps. On a manqué une page de l'histoire qu'on a pu écrire, puis on l'a pas fait. Luca contre Eric Luca. Luca contre Otis Grant, quand Otis préparait son retour, a jamais réalisé. Jean-François Bergeron contre des gars comme Patrice Leroux ou quelque chose, c'est jamais réalisé. Il y a beaucoup de combats locaux qui se sont pas faits. Et c'est ça qui a fait que la boxe est parmi l'âme des sportifs québécois, c'est les rivalités locaux. Puis on a perdu un peu ça. Mais on a gagné de l'autre bord au niveau international, puis des champions du monde, puis une présence à HBO, puis ESPN, puis Showtime. Fait que, écoute.
Merci beaucoup, Ross.
Mais c'est moi qui te remercie. Puis pour les fautes que j'ai faites en français, je m'excuse. Des fois, c'est difficile de penser en anglais puis parler en français.
On a suivi tout le long sans aucun problème, mon cher ami.
Parfait.
Ross Amber était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Ross Amber, entraîneur de boxe. On va le revoir très bientôt. Merci.